Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à sa tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent. Alors les fidèles de 24 notes secondes savent que nous essayons d'alterner émissions sur des artistes, acteurs ou réalisateurs ou sur des compositeurs. Alors, au bout de 500 émissions, pour tout vous dire, on commence à avoir un peu fait le tour des compositeurs de musique de film. Et oui, 500 compositeurs, ça fait déjà beaucoup. Du coup, je ne m'interdis plus désormais de revisiter certains compositeurs qu'on a pu évoquer il y a déjà bien des années. Et ça va être le cas ce jour avec ce cher Claude Bolling, je pense que personne ne nous en voudra, qui fut dans les années 70-80 eh bien, un des plus prolifiques compositeurs de musique de film, puisqu'il composa la bande d'une centaine de bandes originales entre donc 1970 et s'était retiré un peu avant son décès, mais il nous aura quitté le 29 décembre 2020 à Saint-Cloud à l'âge de 90 ans. Pour un homme qui avait commencé sa carrière dès l'âge de 14 ans, eh bien ça fait beaucoup d'années consacrées à la musique. Et on va commencer ce florilège sans doute par la bande originale la plus connue Claude Bolling. On va s'intéresser au film policier et on va commencer donc par un extrait de la bande originale de Borsalino, un film de Jacques Deray tourné en 1970 qui réunissait dans les rôles principaux les deux plus grosses stars de l'époque, à savoir à ma gauche Bébel Jean-Paul Belmondo et à ma droite Alain Delon. Alain Delon étant d'ailleurs à l'origine du projet, ma foi un projet fort cher mais fort judicieux, puisque le film connut un très très gros succès et qui lui-même une suite à nouveau interprétée uniquement par Alain Delon, puisque au risque de divulgâcher, Jean-Paul Belmondo, il mourrait à la fin de Borsalino. Le tout était une évocation un peu fantaisiste de la vie à Marseille dans les années 30, avec des gangsters interprétés par Belmondo et Delon, donc avec cette façon des années 70 de faire des films policiers qui ne se prenaient pas au sérieux forcément, à une époque où l'on ne se prenait pas au sérieux forcément, qui a disparu bien bien loin derrière nous. À leur côté, de Bébel et de Delon, il y avait entre autres Michel Bouquet, Catherine Rouvel, ce cher Julien Guillaumard, Mario David, vous ne voyez pas qui c'est, mais si vous le voyez à l'écran, ah oui, c'est lui, Mario David et quelques autres. Il y avait même Mireille Darc dans le petit rôle d'une prostituée, soupçonnée que c'était un clin d'œil à Alain Delon, qui sait. En tout cas, ce fut pour Claude Bolling l'occasion de composer une BO que personne n'a oubliée. D'ailleurs, vous allez la reconnaître, la preuve, dans 24 notes secondes. ben oui, c'était la musique de Borsalino. Borsalino, je vous l'apprends peut-être aussi, c'était le nom du chapeau que portaient, j'ai la photo sous les yeux, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo dans ce film de Jacques Deray, tourné en 1970, une musique ultra célèbre de Claude Bolling. Mais en 1970, eh bien Claude Bolling, c'était déjà un vieux routier de la musique, puisque figurez-vous qu'il avait commencé à l'âge de 14 ans à jouer de façon professionnelle, avec notamment Lionel Hampton, excusez du peu, dans les années, donc dans les années 40, puisqu'il était né en 1930, et que dès 1948, il jouait avec Kenny Clarke et quelques autres pointures du jazz de l'époque, et qu'il fonda son premier orchestre, le Claude Bolling Big Band. Et en écoutant cette musique assez enjouée façon piano mécanique, on pense effectivement au jazz façon Big Band. Eh bien, il fonda son premier orchestre en 1956. Il n'avait que 26 ans. Bref, un enfant prodige, c'est un enfant prodige. Pourtant, ses parents n'étaient pas du tout dans le milieu de la musique, mais ma foi, quand on a un don, eh bien, il faut le révéler. Et Claude Bolling, ô combien l'aura fait. Et on va écouter un nouvel extrait d'un film policier. Alors là, pour le coup, beaucoup plus sérieux que Borsalino, ça s'appelle Flick Story. C'est à nouveau un film de Jacques Deray tourné en 1964, mais c'est cette fois l'adaptation d'une partie des mémoires de Roger Borniche, qui dans les années 70 connut un gros succès de librairie avec ses mémoires. Bon, a priori plutôt vrai, mais peut-être plutôt arrangé, quand l'homme dit qu'il a arrêté 567 truands pile. Ma foi, on n'est pas forcé de le croire, mais en tout cas, Flick Story était adapté de la traque d'Émile Buisson, quelque part au sortir de la guerre, en fin 1947. Et Émile Buisson, dans un premier temps, devait être interprété par Alain Delon, on pourrait bien vu dans le rôle d'un tueur sadique, mais en fait, et ce fut un choix de maître, il fut interprété par Jean-Louis Trintignant, tandis que le rôle de l'inspecteur Borniche, qui le traque, évidemment, finit par le rattraper, eh bien, était interprété par Alain Delon lui-même. Le tout était, ma foi, peut-être pas du Melville, mais quand même bien au cordeau, bien sec, bien Jacques Deray des meilleures années. Après Flick Story, comme ça a été un gros succès, on vit deux autres adaptations des œuvres de Roger Borniche, de l'autobiographie, on va dire, de Roger Borniche. Il y eut d'abord René Lacanne de Francis Giraud, puis Le Gang de Jacques Deray, où, sauf erreur de ma part, Alain Delon était frisé, ce qui faisait quand même un effet tout à fait bizarre, et après dire un peu inquiétant, et qui était, et c'est peu de le dire, moins réussi que ce Flick Story, qui bénéficiait donc d'un duo charismatique, mais aussi d'acteurs de second plan des mieux venus, Renato Salvadori, André Pousse, Maurice Barrier, Paul Crochet, Maurice Biron, et quelques autres. La musique, elle est évidemment de Claude Bolling, on en écoute un extrait dans 24 notes secondes. Thank you. Flick Story, Jacques Deray, 1975, musique donc de Claude Bowling, avec Bowling, c'est mieux, avec Alain Delon et Jean-Louis Trintignant dans les rôles principaux, ma foi, pour une histoire très chargée et une confrontation de deux grands maîtres, il faut bien le reconnaître. Alors on aime ou pas Alain Delon, mais en tout cas, l'homme fut à l'origine de beaucoup de ses films. C'était déjà le cas de Borsalino, c'était à nouveau le cas de Flick Story, et c'est aussi le cas de Trois Hommes à Abattre, duquel nous allons écouter un extrait de la bande originale produit par Adèle Productions. Adèle Productions, je pense que vous avez compris. Alain Delon savait, je dirais, tourner des films dans lesquels, évidemment, il tenait le rôle principal, mais il savait aussi s'entourer de second rôles solides. Je les ai déjà évoqués pour Borsalino comme pour Flick Story. C'était encore le cas pour Trois Hommes à Abattre, puisqu'aux côtés d'Alain Delon, on retrouvait Pierre Dux, Michel Auclair, Simone Renan, Jean-Pierre Darras, André Falcon, des gens qu'on a vus partout, mais quand je dis partout, c'est pas péjoratif, c'est au contraire qu'on les a vus dans des rôles très différents, mais à chaque fois, à la fois caméléonesques et chacun ayant sa propre personnalité, peut-être pas comme les fameux second rôles du cinéma français des années 30, les Carrettes et autres André Lefort. Mais en tout cas avec un solide background qui faisait que le film n'était pas uniquement un film de la vedette, en l'espèce Alain Delon, mais qu'il y avait aussi d'autres acteurs. Aux côtés d'Alain Delon, il y avait une fille, évidemment, il y a toujours des filles, je ne le dis pas en mauvaise part, mais en l'espèce, la pauvre Dalila Di Lazzaro, qui avait débuté dans La Pépée du gangster, SIC, en 1975, eh bien, ne fit pas ensuite la carrière que sans doute elle méritait. Quant au film, eh bien, c'était une adaptation de Jean-Patrick Manchette, rien à voir avec Roger Borniche, vraiment un genre de policier très différent, Jean-Patrick Manchette, qui fut sans conteste aucun le grand romancier policier français des années 80, et il y a eu beaucoup de films tournés à partir de ses romans. Pas tous des meilleurs, je parle des films, les romans souvent valaient beaucoup mieux que les films, mais en tout cas c'était le cas. Il faut dire qu'il y avait quand même Christopher Frank et Jacques Deray à l'adaptation du roman et Claude Bowling pour la bande originale de Trois Hommes à Abattre dans 24 notes secondes. des accents presque à la Georges Delerue pour un extrait signé Claude Bolling, pourtant de la bande originale de Trois hommes à abattre, qui était, d'après ma petite fiche, la 7e collaboration entre Jacques Deray et Alain Delon, alors en plus des films déjà cités, Borsalino, Borsalino & Co, Flick Story, Le Gang, eh bien on avait eu Doucement les basses, peu connu en 1971, et surtout, on avait eu en matière de film inaugural La Piscine, avec Romy Schneider et Alain Delon. Et là, c'était du show, si je puis me permettre cette vulgarité. 1969 en plus. Ce n'est pas moi qui invente l'année de sortie du film. Claude Bolling, donc, dont nous évoquons la carrière, une toute petite partie de la carrière, puisqu'il a composé plus d'une centaine de musiques. Et là, on s'intéresse au film policier. Mais il faut bien trouver un angle. Il faut dire que le cinéma policier, ça a été une source inépuisable du cinéma français depuis le cinéma muet jusqu'à aujourd'hui, même si beaucoup, hélas, ou pas de production passe vers la télévision. Et on va rester avec Jacques Deray. Par contre, on va quitter Alain Delon pour un film tourné en 1985 dans un très beau titre. Je ne sais pas si c'est le titre du roman original signé de Robin Cook, mais le titre est très beau. On ne meurt que deux fois. On dirait presque un James Bond, mais en mieux. Et On ne meurt que deux fois, et bien, d'une certaine manière, c'est un film testamentaire, puisque c'est le dernier film scénarisé et dialogué par Michel Audiard. Mais en 1985, Michel Audiard n'est plus le dialoguiste gouléant des Tontons Flingueurs ou des films avec Belmondo qu'on a déjà évoqué. C'est plutôt un homme un peu distant, cynique, amer, et du coup le scénario comme le dialogue font évidemment penser à du Michel Audiard, surtout que le tout est dit par Michel Serrault dans le rôle principal. Mais il y a un côté abstrait, un peu froid, très distant, qui fait qu'on n'a évidemment pas du tout envie de rire, même si le film, lui, est plutôt, on va dire, sardonique, qui compte l'enquête que mène Michel Serrault quant à l'amant d'un personnage interprété par Charlotte Rampling, qui prétend d'ailleurs avoir tué son amant, mais on verra ce qu'il en est à la fin du film. Et le film vaut beaucoup, alors, par la confrontation entre Michel Serrault et Charlotte Rampling, mais aussi par des seconds rôles qui, en 1985, étaient encore en train de naître, comme ce cher Jean-Pierre Bacri, comme Gérard Darmon, comme Jean-Paul Roussillon ou quelques autres. Peut-être pas le meilleur film de Jacques Deray, mais en tout cas une ambiance tout à fait particulière, une très belle photo signée de Jean Penzer, et évidemment une très belle musique signée de Claude Bolling dans 24 secondes. pardonnez-moi. Un extrait de la bande originale dont ne meurt que deux fois, un film de Jacques Deray tourné en 1985, la dernière collaboration entre Jacques Deray et Michel Audiard, à vrai dire, la dernière collaboration de Michel Audiard, pardonnez-moi encore, qui nous quitta ensuite. Il avait écrit un livre qui n'est pas vraiment un roman, qui n'est peut-être pas son œuvre la plus connue. Ça s'appelle, je crois, La nuit, le jour et toutes les autres nuits. Et ma foi, si on veut voir un Michel Audiard totalement différent de celui des films de Belmondo et quelques autres, eh bien, il faut lire ce livre, Michel Audiard. Eh bien, on continue évidemment à lui vouer un culte bien mérité. Et certaines de ses répliques que je me garderai bien de reprendre, même si on pourrait faire une émission sur Michel Audiard. Tiens, après tout, c'était pas, il a forcément un très grand réalisateur, mais il a quand même réalisé quelques films. Et combien d'autres a-t-il scénarisé? Michel Serrault, Charles Trampling était dans les rôles principaux de ce film tout à fait étonnant que Jacques Deray avait voulu comme une sorte d'hommage à la tradition des films noirs de la juste après-guerre, ceux de Julien Duvivier, ceux de Henri-Georges Clouzot. Et de fait, il y avait quelque chose, de même qu'il y avait chez Michel Serrault, quelque chose d'acteur comme Michel Simon, le Jean Gabin du Retour de la guerre et quelques autres. Et dans ma bouche, ce n'est pas un mince compliment. Alors on pourrait aussi citer quelques autres films, je dirais un peu à l'écart de sa production de comédie aussi, il faut bien la mentionner, même si on l'aura peu écouté, des films de dessin animé, puisque notamment Claude Bolling illustra plusieurs adaptations en films d'animation des aventures de Lucky Luke et d'autres. Et on peut citer aussi Un papillon sur l'épaule, qui voyait dans le rôle principal Lino Ventura et Jacques Deray, à nouveau un réalisateur, pour une sorte de thriller métaphysique où on ne savait pas trop pourquoi on pourchassait la vedette, mais en tout cas c'était le cas. Et on va justement se quitter avec Lino Ventura pour un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1979, ça s'appelait L'homme en colère. Dans les rôles principaux, il y avait Lino Ventura et Angie Dickinson, puisqu'il s'agissait d'une sorte de coproduction franco-canadienne et que le film se passait en partie au Canada. L'histoire n'était pas forcément du plus grand intérêt, mais ma foi, la confrontation entre ce cher Lino et la sublime Angie à elle seule valait le détour. Musique de Claude Bolling, ai-je besoin de le préciser dans 24 notes secondes? Secondes, c'est fini. pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.